Les gens viennent dans l'Oasis pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Mais ils y restent pour pouvoir être ce qu'ils veulent.
Bats-toi, merde, Rocky, bats-toi!
Tu n'es absolument pas malade.
Ça me va droit au cœur, mais tu es bien placé pour savoir que, au contraire, je suis un grand malade.
Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de Waiting Room, 6 mois plus tard. Et oui, oh là là, on a déconné Seb. Je suis bien sûr avec Seb, notre ami Seb, bien évidemment.
Salut.
Comment ça
Val.
Va Seb?
Ben salut, ça va et toi?
Après ces 6 mois de trou noir...
Ouais, on a déconné, tu l'as dit, on a déconné, on a pas pris le temps, et en fait je pense qu'on a été freiné, parce que les auditeurs ne le savent peut-être pas, mais on avait prévu un deuxième épisode, oui. Et en fait ce qui nous a bloqué c'est qu'on a perdu les pistes, et je sais pas, on a perdu la motive de se dire oh putain, fais chier.
Ouais, puis on a manqué un peu de temps pour on a manqué un peu de temps pour
d'organisation surtout, parce que le temps on aurait pu en avoir, ouais.
Exactement, c'est un peu dommage, mais oui, pour vous donner un peu les insides, on avait enregistré un épisode en fin janvier pour...
Il était cool en plus.
Ouais, enfin, il était grave cool pour parler de The Last of Us.
Voilà, il est complètement intemporel maintenant.
Ah bah oui, oui. Surtout que moi j'ai un tout autre avis sur la série en plus maintenant, mais bref.
Ça a changé ? Tu aimes plus ?
Ouais, je l'ai même pas terminé, elle m'a saoulé. Ouais. Me suis fait
et
chier.
Moi j'ai pas relancé le deuxième épisode après l'épisode 1, tu vois, c'est pour te dire l'intérêt
du
truc.
Finalement, c'est que cet épisode ne devait pas exister. Mais on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode du format Waiting Room. Comme le premier, on va faire un épisode assez cool et assez court surtout, pardon. On va tous les deux amener un petit sujet ou deux et en discuter rapidement. Pour vous faire un peu le pitch, mesdames et messieurs, avec Seb, ici présent, nous sommes bloqués dans le lobby et puis nous en profitons pour échanger sur des sujets de pop culture. C'est un peu la tagline de ce podcast, comme on l'avait présenté dans le premier épisode. Hein, d'ailleurs, on vous invite à aller l'écouter. Est-ce qu'on commence par un petit mini-sujets, Seb? Est-ce que tu as un petit sujet dans lequel...
On va peut-être surtout annoncer un petit peu d'actu sur le podcast avant. On va peut-être commencer par ça avant de censer déblatérer... donner un peu le virage qu'on veut donner à la waiting room et
exactement.
Et puis
ben voilà, écoute, je te laisse faire
c'est
la,
moi
l'annonce.
J'en parle. Ouais. alors déjà, ben le premier point, c'est que tu reprends les rênes. Voilà.
Oui.
Donc on avait dit déjà que bon, ce format-là, c'était toi qui faisais le host. Et là, je te laisse complètement les rênes parce qu'en fait, on va le dire aux auditeurs, je ne suis pas et j'en porte la responsabilité. Tu sais, comme un homme politique, tu sais, tu expliques que j'assume à 100% la responsabilité et je démissionne de mon poste de podcasteur. C'est pas tout à fait ça. Mais c'est qu'en fait, moi, je suis pas l'homme le plus disponible du monde. J'ai très peu de créneaux le soir. Et ce qui fait que c'est ce qui a contribué au fait qu'on n'arrivait pas à record tous les deux. Et toi, pour le coup, t'es un peu plus disponible que moi. Et c'est pour ça qu'on a décidé de modifier en fait le contexte, enfin pas le contexte mais la formule du podcast. Alors ça reste le même concept, c'est-à-dire qu'on va continuer à faire des épisodes autour de la pop culture, il y aura toujours un peu de tier list aussi, mais moi je serai beaucoup moins présent, je serai vraiment en mode guest de temps en temps, et on a décidé, on lui a demandé avant, on m'a dit c'était chaud, on a décidé d'avoir mon remplaçant entre guillemets, en la personne de
Chris, pour ceux qui nous écoutent sur YPDLM, Chris, il a participé à 4 ou 5 épisodes maintenant.
Le dernier en date, c'était The Fable du mois de juin. Il était avec nous et je lui ai posé la question s'il était chaud de venir faire du podcast avec toi en mode vraiment ton binôme, quoi.
Ouais, carrément.
Et il est carrément chaud. Au niveau du rythme, on va essayer de garder un rythme de quoi, une fois par mois. Si vous arrivez à faire plus, tant mieux.
Si on peut une fois par mois, c'est bien, puisque toute façon, le problème est toujours le même, c'est une question d'emploi du temps, etc. On a du mal à concilier nos emplois du temps tous les deux, Seb. On le fait fait déjà pour le premier podcast YPDLM qui nous demande quand même malgré tout mal d'orga.
Mais là pour le coup on est rodé, c'est l'avantage.
Ouais voilà, on est rodé puis on avance assez bien maintenant. Mais c'est vrai que rajouter une nouvelle itération, c'est assez compliqué pour par rapport à nos emplois du temps. Et donc Chris est largement
c'est un gros passionné aussi.
Ouais, c'est un gros passionné, vrai client de pop culture. Il regarde beaucoup de choses, il lit beaucoup de trucs, il aura toujours quelque chose à amener. Si vous ne le connaissez pas, il participe donc au Tomodachi Club, qui est une émission sur Twitch. Et à chaque fois, il ramène des petits formats et des petites prises sur des sujets. Et c'est vraiment intéressant. Et donc, vous verrez dans les prochains épisodes.
Ouais, c'est quelqu'un avec qui on a bien accroché, en fait, de manière générale. On se donne régulièrement des nouvelles. On est à distance, tu vois, mais on s'est déjà vu quelques fois. Et puis, on se parle régulièrement par des messageries interposées.
Clairement,
donc, en fait, c'était vraiment, pour nous, en tout cas, la bonne personne à mettre dans le projet quoi et lui proposer de prendre part à l'aventure et puis de pouvoir essayer de monter ce truc là parce qu'on aime bien toi et moi parler de pop culture et c'est vrai que moi à côté comme j'ai trouvé un bon alignement des planètes
toi,
avec d'autres collègues
ouais.
pour faire d'autres podcasts à côté je redirai ça en fin d'émission mais en tout cas je me disais que celui-là c'était dommage parce qu'on a un super truc et toi tu t'éclates en plus tu l'as dit plusieurs fois t'as un besoin de parler de cinéma de parler d'autres choses Et je dis, mais ouais, mais c'est pas forcément toujours avec moi, parce que nous, on est déjà pas mal de temps ensemble sur YPDLM Podcast, et du coup, bon, bah voilà, maintenant on se dit, vas-y, lance-le, et puis ça sera ton bébé, quoi, et t'en feras ce que tu veux, quoi.
Ouais, et puis bon, me mets pas trop la presse, hein, on va en faire ce qu'on peut. En tout cas, on espère que vous allez apprécier le format, et que vous appréciez le format. C'est vraiment tranquille, on va pas se prendre la tête, on va donner notre avis de fan, hein, subjectif, on n'a aucune prétention. On veut juste partager nos ressentis et ce qui nous plaît.
Et clairement, si je peux être là sur les émissions, je serai là.
Ouais,
c'est juste une histoire
bien sûr,
je veux pas être entre guillemets le relou de service qui vous ralentisse et qui vous empêche de faire des épisodes parce que je suis pas dispo.
Ouais, ouais.
Donc clairement, si dans un créneau, je peux me greffer à vous, je viendrai avec vous avec grand plaisir. Parce que je consomme aussi pas mal de pop culture en dehors, donc j'ai toujours des trucs à dire.
La donc, culture pop. Yes.
Voilà, la culture pop.
Bah écoute Seb, je te propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que tu te sens chaud pour démarrer ou tu veux que je démarre?
Vas-y, lance-toi. Moi j'ai un tout petit truc juste à dire qui est peut-être le truc le plus dans l'actualité, c'est que j'ai été voir. Alors c'est un épisode qui va sortir courant du mois de juillet. Vous écoutez, on n'a pas encore la date de quand on le sort, mais en tout cas là début juillet est sorti Élémentaire, le nouveau Pixar. Donc j'ai été le voir. Donc, juste donner rapidement mon avis, ça peut-être te motive à y aller ou pas. Écoute, c'est un bon Pixar, mais c'est pas le meilleur. Voilà, comment je résumerai un peu le principe. Au niveau de la technique et l'ADA, c'est juste magnifique. Au niveau de l'histoire, c'est pas folichon. On perd un peu le côté finesse d'écriture où t'as la double lecture où t'as le côté très enfantin pour les enfants pour accrocher les enfants et puis l'adulte va comprendre des trucs en arrière-plan. Ça, on a perdu un peu cette magie là de finesse d'écriture, mais malgré tout ça reste une histoire assez plaisante. Pour la petite anecdote, je l'ai vu deux fois dans la même journée. Donc j'ai pu vraiment prendre toute l'ampleur du film.
Deux fois dans la
film.
Même journée, c'est
pour la petite anecdote, j'ai deux enfants et on a fait une journée garçon, une journée fille, donc on a partagé puis on est parti chacun de notre côté. Donc j'ai emmené mon fils voir Élémentaire parce qu'il voulait le voir. Et puis le soir, ma femme avait promis à ma fille d'aller au cinéma aussi. Et ma femme était un peu fatiguée. Et puis je dis moi je lui explique, je dis écoute vas-y moi je l'emmène si tu veux. Et donc j'y suis retourné avec ma fille et j'ai essayé de la convaincre de dire viens on peut aller voir ça, il y a ça qui est pas mal et tout. Elle m'a dit non j'ai envie de voir Élémentaire. Bon on y retourne. Donc j'ai été revoir une deuxième fois Élémentaire. Donc pour rapidement l'histoire, on suit l'histoire de la famille. Flamme, bref, c'est en fait on est dans un univers où littéralement les personnages sont les éléments. Donc vous avez la terre qui sont matérialisés par des arbres, vous avez le vent qui est matérialisé par des nuages, vous avez le feu, c'est des petites flamèches, et vous avez l'eau, c'est des espèces d'humanoïdes en forme de flaque, voilà.
Ouais,
c'est même pas des gouttes d'eau, c'est des personnages habillés et tous ces gens-là vivent dans une société. Et on suit en fait la famille de Flamme qui a émigré qui a émigré vers Element City pour justement se développer. Et c'est un film en fait sur l'immigration. Puisqu'en fait, alors je l'ai appris après, c'est quand le réalisateur, enfin celui qui a écrit l'histoire, est coréen et a raconté en fait l'immigration coréenne aux États-Unis, je crois de mémoire. Je ne pourrais pas pour être sûr à 100%, enfin bref. Mais en tout cas, les flammes, le feu, est vu comme l'étranger. Et on les voit justement essayer de s'insérer dans la société. Et l'eau est plutôt considérée comme la bourgeoisie, la haute classe. Et on va suivre justement Flamme qui prend tout le fardeau en fait de reprendre le commerce de son père et qui va faire la rencontre de Flack, ouais c'est ça, Flack le nom, qui est donc un élémentaire d'eau avec qui vont se lier d'amitié et plus si affinité. Et on va les voir partir dans les péripéties pour tenter sur un malentendu de sauver le commerce du papa de Flamme. Qui est sous le coup d'une fermeture administrative. Voilà, j'en dis pas plus, mais c'est du Pixar assez classique dans l'écriture.
C'est un peu un Roméo et Juliette, de ce qu'on en voit du trailer. J'ai pas vu le film, mais en gros, on comprend que les deux personnages
sont un peu
love interest, ouais. Mais qui peuvent vivre ensemble, en fait, parce que
c'est exactement ça.
Le feu et
l'eau. Ils sont de deux univers différents. Alors après, ce qui est dommage, c'est que les autres éléments ne sont pas hyper développés, mais malgré tout, Peut-être pour la suite, ouais. Alors, ce que c'est très bien faire Pixar, c'est que en quelques images, ils arrivent à te poser le lore, à te poser les forces, les faiblesses de chaque élément par rapport aux autres, etc.
Ouais.
Donc ça, c'est plutôt bien fait. Je te dis, la DA artistique, elle est vraiment sublime. Et le tout, et je crois que tu as quelque chose à rajouter là-dessus sur le petit anecdote. Moi, j'ai trouvé que la direction vocale, donc en tout cas
le casting
vocal.
De
doublage. Mmh. Ouais, le casting vocal est cool. Je crois que c'est Adèle Exarchopoulos et Vincent Lacoste qui sont casting vocal. Mais a priori, c'était pas ça qui était prévu à la base. C'est ce que tu m'as dit en off.
Alors,
je trouve intéressant que tu en parles.
J'ai pas toutes les infos, mais moi, je me souviens que j'avais vu le premier thriller de Élémentaire. C'était notamment Donald Reignoux qui doublait la voix du personnage masculin de Flack, du coup. J'ai pas la comédienne de doublage qui jouait le personnage féminin, mais ça a été changé. En gros, il y a eu un star.
Ils ont mis une star
talent. Star talent,
ouais,
c'est
star
ça.
Talent, ouais.
Je vous invite d'ailleurs à aller regarder, pour ceux qui aiment bien les trucs de doublage et tout ça, je vous invite à regarder la chaîne Vox. Voxophile Vox, ouais, quelque chose comme ça. Ouais, j'ai plus la chaîne. Je vous la dirai juste après. Mais justement, c'est lui, il y a plein de vidéos sur le Star Talent qui marche pas et tout. Donc je vous invite à aller regarder ça, c'est hyper intéressant pour le monde du doublage. Et en tout cas, moi j'avais été très convaincu par le thriller de Élémentaire avec Donald Reignoux. Et ensuite, il y a eu un autre trailer avec Vincent Lacoste et Adèle Exarchopoulos où j'étais un petit peu moins emballé. Donc, j'ai pas encore vu le film, mais
autant je trouve qu'Adèle Exarchopoulos, elle fait un super taf. Franchement, vraiment dans le rôle de Flamme, elle est très très forte.
Ouais.
Je suis un peu plus mitigé sur Vincent Lacoste. C'est peut-être l'élément un peu plus faiblard du casting. Tout le reste, ça tient bien la route parce que ce sont des comédiens de doublage je pense que c'est vraiment leur métier à part entière. Là, d'avoir mis deux acteurs un peu talentueux, un peu dans la vague, passez-moi l'expression, de mettre ça justement dans ce film-là. Ouais, je te dis, ouais, je trouve Vincent Lacoste pas forcément. J'ai pas trop aimé sa prestation, mais ça fait le taf. Après, le film en lui-même, il est sympa. Ça sera pas le meilleur Pixar de l'année, mais j'ai peur qu'il bide. Hein. Et apparemment, il est très mal parti pour faire un succès. Et ça va toute la stratégie de Disney qui malheureusement a un peu tué Pixar avant l'heure hein, puisque tous les derniers Pixar on les avait eus sur la plateforme et là c'est peut-être le premier qu'on est au cinéma depuis un moment. Peut-être qu'il y a eu Buzz d'éclair avant.
Ouais, il y a eu Buzz, je crois qu'il y a eu Buzz, ouais.
Et puis c'est tout, mais tout le reste est tout, sorti
ouais.
sur...
Non, ouais, le reste était sorti, le monde comment ça s'appelle là
Alerte avec... Rouge.
Non, pas Alerte Rouge, mais le je crois que c'est un Pixar qui se passe dans un monde où il y a une espèce d'énergie verte là, et puis ils partent dans une espèce
d'univers. C'est un Disney. C'est pas un Pixar.
Ah, c'est pas un Pixar.
Non, c'est un Disney.
Ok, ok.
Il me semble que c'est un Disney. Celui-là, pour le coup, il est sorti directement sur la plateforme. Tu mets le doute. Enfin bref. En tout cas, voilà, c'était juste la petite actu que j'avais été justement voir élémentaire au cinéma et qui est, qui est un bon divertissement familial, mais qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on a pu voir par le passé. Tu vois, on a déjà parlé ici ou ailleurs de Lucas. Je trouve que Lucas est au-dessus. Alerte Rouge a beaucoup plus de finesse dans son écriture aussi. Mais Element, voilà, il a cette force-là d'être visuellement très joli, quand même, pour le dire.
Ouais. Non, mais je suis curieux quand même d'aller le voir, donc je pense que je le verrai dans les prochains jours. J'essaierai de trouver un créneau. Et puis je vous dirai ce que j'en pense si je vais le voir. Si je le vois plus tard, je verrai plus tard.
Il va vite arriver sur la plateforme.
Il y a le prochain film de Nolan là, très bientôt. J'ai très hâte.
Ouais, Oppenheimer.
Oppenheimer, ouais.
Ouais, c'est ça.
Ça va être,
sur le créateur de la bombe nucléaire. Je sais pas ce que ça peut valoir. Hein. Mais
ça va être un très grand film. C'est
j'ai pas vu ces deux derniers, hein, pour info. Hein. J'ai toujours pas vu les deux derniers. Hein.
Comment ça, les deux derniers?
Et ben, Tenet et Dunkerque, qui étaient juste avant, je les ai pas vus. Pour info, qu'un jour je les vois.
De très bons films. Bon, après, moi je suis client, donc j'aime beaucoup. Ok, très cool pour le petit sujet. Moi, si j'ai un petit sujet à amener aussi, c'est un truc un peu old, vous allez me dire, mais je le découvre là maintenant. J'avais pas envie de le regarder avant, mais je sais pas pourquoi là en ce moment je m'y suis mis. On me l'a conseillé, c'est un ami à moi qui me l'a conseillé. C'est la série Le Bureau des légendes. T'as dû voir, je pense.
Oh oui, alors je connais de réputation avec Mathieu Kassovitz.
Ouais.
Mais j'ai jamais franchi le pas parce que c'est une série Canal et je ne suis pas abonné à Canal et comme je reste dans la légalité, je l'ai pas encore vu.
Ok. écoute, moi on m'en avait vendu que du bien aussi, mais je sais pas pourquoi j'étais pas dans le mood du série française. Les productions françaises me font vite peur. J'ai peur que ça retombe très vite dans un
tout n'est pas Plus belle la vie ou l'avenir de demain ou demain t'appartient. Demain t'appartient sur TF1, c'est ça.
Demain nous appartient.
Ouais, c'est ça.
Oui, non, mais même en dehors de ces trucs de télé, ces séries télé, etc., même les trucs un peu produits, je sais que dernièrement il y a eu Abyss, soi-disant produite par les producteurs de Game of Thrones, etc. Ils nous ont mis ça pour vendre un peu
la
série.
C'est français, ça?
Ouais, c'est une série France Télé, ouais, je crois. Ouais. Avec Cécile de France, tout ça. On m'a dit que c'était pas mal, mais pareil, je suis pas emballé parce qu'en fait j'ai peur d'être très déçu. C'est des séries qui se veulent avec un peu une volonté d'américaniser un peu la production française, mais
ça fait des années qu'ils essaient de faire ça. Hein.
Ouais, et ils y arrivent pas vraiment, et donc du coup ça pêche un peu en qualité et parfois. Et
tu parles de France Télé avant que tu parles du Bureau des légendes. Moi, toi, il y a une série, une production. Moi, j'aime bien beaucoup les productions de Simon Astier, le frère d'Alexandre Astier.
Oui.
Et tu parlais de France Télé. J'ai vu passer le teaser de Visitors. Ça me chauffe parce que pour le coup, il y a Alban Lenoir dedans qu'on a vu dans AK qui est actuellement sur Netflix là. Et moi, j'aime bien ce qu'il fait. Je l'ai su depuis HeroCorp et compagnie. Et tu parles de production française. Moi, j'aime bien la patine que propose Simon Assé dans ses séries.
C'est vrai.
Et Visitor, moi, ça me chauffe. Faut que j'arrive à l'avoir un de ces quatre parce qu'il y a un peu de SF et l'humour de Simon Astier que je suis assez client.
Ouais. HeroCorp, c'était très très cool, mais c'était une web série avant d'être.
Ça a démarré web série, ça a terminé après, c'était sur No Life.
Justement, s'il y a bien un truc qui se démarque en France, c'est justement les productions un peu indépendantes comme ça qui commencent
Visiteurs
en web
série.
Ouais, Visiteurs du futur qui a fait un film récemment qui était assez
cool
à ce qu'il paraît. Je
tu
l'ai pas vu,
toi,
non plus encore.
Non plus.
Mais il paraît que c'était quand même plutôt cool. Et HeroCorp, ça avait vraiment bien marché. À l'époque, moi j'étais très fan de Noob.
Ah oui, moi aussi je regardais ça.
J'ai beaucoup regardé Noob. C'était vraiment
c'était
très
sur
très
No
cool.
Life, ça, à l'époque, ça.
C'était passé sur No Life, mais c'était sur YouTube surtout. Très très cool. Et donc, Le Bureau des légendes, donc de quoi ça parle? En fait, c'est tout simplement une série qui va rentrer au cœur de la DGSE, donc les services de renseignement français. Donc c'est la CIA ou le FBI, c'est pas vraiment le FBI, c'est plus la CIA française.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Les services de renseignement, les espions en fait français, mais c'est tourné avec vraiment une volonté de coller quand même pas mal au réel sur ce qui se passe réellement à la DGSE, et on suit plusieurs personnages, notamment donc le personnage de Mathieu Kassovitz qui est un clandestin. Les clandestins, c'est le terme pour parler des agents sur le terrain en fait, avec un nom de code et qui ont des missions en lien avec forcément des intérêts français. Et on suit plusieurs personnages qui ont des des positions hiérarchiques très différentes à la DGSE, et c'est vachement bien fait, ça colle au réel, et en fait ça donne une ça donne vraiment un intérêt à la série, puisqu'en fait ça débunk un peu le côté espion
mystique.
Et
ouais,
espionnage
ouais.
qu'on a du des Américains, ou tu vois, genre Mission Impossible, James Bond,
oui,
etc.
Bah, très hollywoodien.
Exactement, ouais. Et ça colle un peu au réel, avec en plus des problématiques, je pense, très, très concrètes, puisque bah, par exemple, le personnage de Kassovitz, c'est vraiment les premiers épisodes, hein, je spoil pas grand chose, moi j'en suis qu'au début de la première saison, et je vais continuer, puisque je suis bien hypé. Je sais pas si c'est propre sur les saisons qui suivent.
Les échos que j'ai et les podcasteurs que j'ai entendu
apparemment,
parler
ça
cette
perd un
série-là,
peu en qualité, non ?
Non, non, ils ont tendance à dire que c'est quand même, pour de la production française, c'est très, très quali.
Bon,
et,
bah, cool.
Et ça, elle a plutôt une série qui a une, qui a un bon aura, donc a priori.
Bon, bah, super, bah, voilà. C'est de très bon augure. Et oui, donc le personnage de Kassovitz revient en fait dès le premier épisode d'une mission. Il est rappelé par par l'agence et le problème, c'est qu'il était parti plusieurs années en mission en Iran, je crois. À Téhéran. Non, Téhéran, c'est en Iran.
Alors, je ne sais pas.
Ouais, un truc comme ça.
Géographie.
Oui, il me semble. Et en fait, il avait lié une relation avec une femme là-bas, qu'il est obligé de mettre un terme. Il détruit tous ses papiers, tout ce que, toute la partie un peu espionnage, quoi. Il a des faux papiers, il a une légende, du coup. La légende, c'est qui est-il dans ce pays, quoi. Ouais, je suis, je sais pas moi, archéologue, bref. En gros, ils ont une légende qui va coller pour pouvoir intégrer des groupuscules et aller chercher des informations, ce genre de choses.
Ah, c'est de là dont est tiré le titre. Je connaissais pas la rêve du titre, en fait.
Ah, okay, ben, en fait, le Bureau des légendes, c'est du coup le titre, c'est le nom du service qui gère tous les clandestins. En fait, à la DGSE, ça s'appelle le Bureau des légendes, puisque c'est de là qu'ils sont pilotés. Et on voit vraiment plein de trucs. C'est-à-dire que même en interne, ils sont très fliqués. Ils sont eux-mêmes contrôlés. Tu vois ce que je veux dire? Pour éviter les agents doubles, etc. Et du coup, il y a vraiment une espèce de tension
Ouais,
un climat de non-confiance, ce qui est vraiment intéressant. Et du coup, ça colle, je pense, pas mal au réel. En plus, en ce moment, dans la création de contenu sur Internet, sur YouTube, pas mal, sur les gros médias du web, on a pas mal d'anciens agents de la DGSE qui viennent faire des interventions pour un peu débunker, dire ce qui est vrai, ce qui est pas vrai.
Ouais.
Et du coup, et souvent ça colle, donc le Bureau des légendes colle pas mal à ce que eux en disent, en fait. Donc,
mais ils n'ont pas eu justement leur force, c'est qu'ils n'ont pas eu des consultants de la DGSE sur ce.
Ouais, je pense clairement.
Il me semble avoir eu un truc comme ça.
Ouais, c'est très intéressant. On voit des exercices de mise en pratique sur des agents. Par exemple, dans le premier épisode, ils demandent à une meuf d'aller récupérer le nom, prénom, numéro de téléphone et adresse à deux mecs dans un bar qu'elle connaît pas, et du coup la meuf doit trouver un moyen d'aller les aborder sans paraître chelou et sans paraître d'un quelconque organisme de renseignement, quoi. Et très très intéressant, j'ai hâte de voir la suite puisqu'il y a pas mal de choses qui sont mises en place, donc je pense que beaucoup de gens l'ont vu. Moi je suis un peu late là-dessus, mais je voulais en parler sur la waiting room. Je pense que j'en reparlerai dans les prochains épisodes si j'avance bien.
C'est l'avantage, comme tu dis, c'est old, parce que je pense que beaucoup de gens l'ont vu, mais c'est sur Canal, donc a priori Canal n'a pas pour projet de déprogrammer ou d'enlever de sa plateforme les séries production française, surtout production Canal.
Ouais.
Donc on peut le voir à tout moment, à son rythme, et puis ça fera un petit fil rouge, tu pourras dire où tu en es. Et
exactement, et puis il y a que 5 saisons, apparemment ça semble
10 épisodes par saison, je crois, en plus. C'est court, hein, par saison.
C'est ça, il y a une totale de 50 épisodes, ça se regarde bien, donc voilà.
C'est le format idéal.
Très cool. Écoute, on en a terminé pour ces petits trucs un peu rapides, et on peut passer au vrai sujet maintenant. Et je vais tout de suite te donner la parole, puisque tu vas nous parler de quoi tu vas nous parler, tiens. Vas-y.
Je pense que c'est le bon terme pour parler de drama coréen, ou de série télé en tout cas coréenne. Je me rends compte en fait que j'en ai pas vu beaucoup, mais j'en ai vu une autre avant que j'avais trouvé très 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 cool. qui s'appelait My Name, où on suit en fait une héroïne dont le père se fait tuer et elle va s'entraîner dans l'ombre et rejoindre la mafia pour justement aller se venger contre les meurtriers de son père et enquêter sur les meurtriers de son père. Et j'ai trouvé qu'en termes de production, c'était vraiment cool. Et là, ça fait plusieurs semaines, comme je regarde beaucoup de contenu à base d'arts martiaux, de combats sur Netflix. En fait, il a capté le truc à Netflix, hein, il met les trucs en avant. Et après, il paraît quand même que c'est une série qui est quand même vachement poussée par tout le monde. Et du coup, je ne l'ai pas complètement terminé au moment où on se parle, mais j'ai suffisamment de recul pour l'instant parce que j'ai vu qu'il me reste un ou deux épisodes à regarder. Et en vrai... Peu importe la conclusion, j'ai envie de dire, ça sera, pour l'instant, c'est juste incroyable. C'est la traque dans le sang ou Bloodhounds, donc Blood une série Bloodhounds. Ouais, c'est ça. Mon anglais est pas terrible. Donc c'est une série coréenne, donc de Corée du Sud, hein, pour être très précis, qui suit en fait le destin de deux boxeurs qui vont justement devoir, entre guillemets, alors même si ça arrive un peu plus tard, mais s'associer en fait à un prêteur sur gage, un prêteur d'argent, pour aller justement s'affronter contre une espèce de grand prêteur sur gage, mais un malfaiteur du grand banditisme qui justement utilise la faiblesse et la détresse des gens pour les arnaquer et pour établir un empire du crime et une puissance sur la Corée. Alors, je préviens tout de suite les auditeurs, hein, si vous ne l'avez pas encore vu, je ne vais pas spoiler, mais attention à la bande-annonce, elle survend un peu le produit, parce qu'en fait, la bande-annonce, c'est un espèce de medley de toutes les scènes de bagarre, et on a l'impression que c'est une série où ça va bastonner tout le temps, et en fait, non. Ça bastonne pas tout le temps.
Si c'est un drama, ça doit pas être vraiment le cœur du sujet, quoi, j'imagine.
Non, mais honnêtement, je vais y revenir. Mais ça laisse, c'est une série qui laisse beaucoup de place à la discussion entre les personnages, au développement des personnages. Donc on a affaire à beaucoup de dialogues, beaucoup d'échanges. Nos deux boxeurs, des fois on les voit pas et on fait la part belle aux méchants. On a d'autres personnages secondaires qui rentrent dans la ronde. Et c'est vraiment super bien écrit. Enfin, en tout cas, moi c'est un vrai plaisir de visionnage. Je le regarde en VF. Parce que pour le coup, le casting vocal, ça fait le taf, quoi. C'est vraiment bon. Puis, il y a juste, on en parlait tout à l'heure, il y a juste Donald Renew qui double Hong Woo-jin. Donc, les deux boxeurs, donc c'est Hong Woo-jin et Kim Jeon-woo. Ouais, c'est très dur à prononcer. Je n'ai pas fait coréen, deuxième langue. Je suis désolé. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment chouette parce que au niveau martial et au niveau baston, c'est juste impressionnant, quoi. C'est juste, alors c'est dit dans la bande annonce et on le sait assez vite. En fait, on a le personnage de Kim, Kim Jeong-woo, qui lui est un boxeur qui s'est fait par lui-même, hein, qui s'entraîne beaucoup tout seul, et il a une gauche dévastatrice. Mais sauf que c'est pas que sa gauche qui est dévastatrice, il est juste monstrueux en boxe. Et en fait, il fait la connaissance justement de Hong Woo-jin et il se rend compte lors d'un combat. Et on va dire qu'il y a une espèce de coup de foudre fraternel, coup de foudre amical entre ces deux personnages qui vont tout de suite accrocher. Et on est vachement imprégné dedans parce que du coup, on adhère en fait au délire entre les deux persos. Ils se connaissent pas, mais ils ont un caractère complètement différent. Il y en a un qui est assez introverti, l'autre qui est complètement extraverti. Et pour autant, ça match. Et en tout cas, là où j'en suis, on pourrait se dire à un moment donné, leur amitié va être mise à rude épreuve et compagnie. Pour l'instant, ça bouge pas. Donc voilà. Donc comme je veux pas spoiler, et puis il y en a peut-être encore qui hésitent à aller regarder cette série-là, c'est un mélange, alors pour donner un truc très manga, pour que les gens s'en rapprochent, c'est un mélange entre Hajime no Ippo, dans le côté, pour le côté boxe, même si c'est pas du tout le background d'Hajime no Ippo,
ouais.
Et
c'est pas
surtout
non plus.
Non plus, mais ça a surtout un background très sunken rock.
Ok.
Il y a un côté très sunken rock dans le côté mafia coréenne, etc. Et c'est très violent, c'est très dur, c'est très noir. Et je vous dis, les bastons, en fait, au final, il n'y en a pas tant que ça. Je crois que j'ai vu 6 ou 7 épisodes. Il n'y en a pas tant que ça. Mais pour autant, dès que vous en avez, c'est des putains de morceaux de bagarre de plusieurs dizaines de minutes qui envoient, mais sévère, quoi. Vraiment. Ça déboîte. Ça déboîte.
Apparemment, c'est adapté d'un webtoon, hein, qui s'appellerait Hunting Dogs. D'un auteur coréen.
Je ne savais pas.
Tu vois, t'as fait des parallèles avec le manga. Y avait de quoi, puisque si c'est adapté d'un webtoon, on est sur le format bande dessinée, quoi. Donc c'est cool.
Oui. Bah, complètement. Mais pour le coup, ça peut être une occasion pour des personnes qui ne veulent pas. Qui ne veulent pas, lire le webtoon. En tout cas, la série Netflix, elle est juste ma boule, quoi. Les acteurs sont super bons. C'est vraiment vraiment bien. Il y a beaucoup de, c'est très noir, c'est assez violent. Il y a un côté aussi ultra jouissif, quoi. Dans les bastons, ouais. Ça tabasse sévère, quoi. Enfin, il y a une précision dans les coups et ils ne font que de la boxe, quoi. C'est tout ce que j'aime dans la bagarre. C'est du 1 contre 15, du 2 contre 30. Enfin,
ouais, toi, tu vois, c'est... toi, c'est ton délire, hein, d'ailleurs.
Ah ouais, ouais.
Est-ce que tu vas parler de ce truc-là dans High Kick dans ton podcast?
Alors, non, parce qu'en fait, on ne parle que des films. Alors, on réfléchit à un moment donné, un jour, de parler des séries et puis de trouver une manière pour que ça reste cohérent par rapport à la ligne du podcast d'en parler. Mais non, on fait que les films, donc c'est pour ça que j'en parle là, parce que on est un peu dans l'actualité. Et c'est une vraie bonne série. Enfin, j'ai hâte de la terminer. Et encore une fois, je pourrais revenir dans le podcast pour dire « Ah, c'était super, vraiment !» Je suis persuadé que ce sera super. Pour l'instant, je ne suis pas déçu. Je ne sais pas si, du coup, ça va se terminer en une saison, puis on n'en parlera plus.
Oui, il me semble, de ce que je lis là, apparemment, c'est un one-shot. Hein. Il n'y aura peut-être pas de suite. Ou alors, s'il y a une suite, un peu comme Squid Game, à la base, il ne devait pas y avoir de suite. Et puis, en fait, ça a tellement eu de succès que maintenant, on a la saison 2 qui va sortir bientôt. Donc...
C'est ça, ça a l'air en tout cas de faire dans la construction de la série, de tout faire pour que ça se conclue en une saison. Mais après, là, j'ai été, pendant que tu parlais, j'ai été regarder un peu le Hunting Down. Il y a une saison 2 aussi au Webtoon. Donc, ça serait pas complètement improbable de retrouver en fait nos deux protagonistes. Mais c'est super parce que c'est vraiment, enfin, c'est bien réalisé, le rythme est bon, enfin, on s'ennuie pas, même tout le off où c'est plus calme, on s'attache aux personnages sur leur passé, enfin, tout ce qu'ils peuvent créer ensemble. Enfin, c'est une vraie bonne série, en tout cas, c'est vraiment un petit coup de cœur pour l'instant parce que c'est un petit kiff de visionnage et je te dis, j'ai vraiment hâte de terminer cette série. Et puis franchement, tu peux y aller les yeux fermés, hein. Je pense que ça peut vraiment te plaire aussi, hein, clairement.
Ouais, j'y jetterai un œil, surtout qu'en plus, moi je suis pas trop dans les dramas coréens, mais.
Mais là c'est.
Le peu que j'ai vu, il y a des trucs très cool que j'ai vu, donc en vrai, pourquoi pas.
Franchement, c'est très très cool. Et puis la bonne, VF, je te dis, il y a Donald Renew, donc c'est un argument en soi.
Si la VF est bonne, c'est bon, hein, c'est déjà tout.
Non,
gagné,
non, la VF est très très bonne, voilà.
Ouais, bah, dinguerie. Ok, cool. Super cool. Ben écoute, j'enchaîne.
Bah oui, c'est toi. Et quoi, c'est toi? Et toi, c'est quoi?
Et
voilà.
Et moi, c'est quoi? Et ben écoutez, moi, pour être très original, bon, je pense que l'épisode sortira assez rapidement dans les prochains jours après qu'on est en train de l'enregistrer, puisque j'ai pas envie que ça soit trop late non plus. Je vais vous parler d'un film qu'il y a au cinéma, un film d'animation. Évidemment, je vais vous parler de Spider-Man Across the Spider-Verse. Le deuxième volet de la série d'animation, enfin du premier film d'animation, qui sera une trilogie, oui, je sais, de
oui,
Spider-Man Miles Morales.
Val dit je sais parce que je lui fais le signe de 3 à la caméra, et parce que les auditeurs, tu te doutes bien qu'ils ne nous voient pas.
Oui, je sais. Comme tu me fais des petits signes comme ça.
Et oui, donc, c'était pour être discret.
Ce Spider-Man-là, on l'attendait, évidemment, le premier, donc Spider-Man Into the Spider-Verse ou New Generation en version française. Alors ça, c'est une erreur monumentale, mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. Donc c'est la suite de ce premier volet qui est sorti en 2018, si je dis pas de bêtises, le premier.
Ouais, je crois que c'est ça, ou 2019 peut-être.
Ouais, quelque chose comme ça. 2018, le premier. Ouais,
c'est ça.
Et donc c'est la suite directe. Où on suit en fait donc l'histoire et les aventures de Miles Morales, le Spider-Man, on peut le dire, Spider-Man noir, Black Spider-Man.
Ouais, il n'y a pas de secret parce que c'est issu des comics, hein, donc.
Exactement,
c'est
ouais, voilà, bon, c'est ouais. Le premier Spider-Man issu de la communauté noire ou donc Miles
afro-américaine.
Exactement, où Miles a un père afro-américain et une mère portoricaine. Donc qui mélange les cultures et c'était vraiment à la base c'est sorti je crois en 2012 ou 2013 dans les comics quelque
dans
chose
les
comme
Ultimate
ça
Spider-Man pour être précis
Ultimate, ouais, Ultimate Universe.
Ça faisait la suite en fait de bah c'est sorti dans les Ultimates et après ils ont décidé de faire un espèce de mix de tout ça et d'intégrer le personnage de Miles Morales dans l'histoire canon, puisqu'on le retrouve aussi dans les jeux, hein.
Oui, on le retrouve dans les jeux. En fait, c'est un personnage qui est devenu très très vite populaire. Pour la petite anecdote, moi à l'époque, quand j'ai eu ma période comics, c'était en plein pendant la sortie du nouveau Spider-Man de Miles Morales. Du coup, j'ai encore quelques comics chez moi, des mensuels, je crois, bimensuels, c'était, je crois. Donc c'était tous les deux mois que ça sortait.
De chez Panini, ouais.
Ouais, chez Panini, et avec justement les premières histoires de Miles et tout, et c'était vraiment vraiment très très cool.
Paix à leur âme, de mon côté, ça fait partie des comics. Je la raconte souvent cette anecdote, hein, mais j'avais ces comics en version magazine, et je les avais stockés à ma cave, et malheureusement les voleurs sont venus me dérober. On les a tapés, et ouais, ça me fait chier parce que ça avait un peu de valeur quand même, plus sentimentale que financière, même si je pense que financièrement ça devait valoir un peu de soucis, parce que bon bref, j'avais des variants de cover et compagnie, donc
c'est
bref.
Bien dommage. Bon, moi je les ai encore là, je les touche pas, pourtant je les avais foutus en mode sur Vinted, mais je crois que je vais les garder. Donc de quoi ça parle. Le premier suivait donc l'histoire de Miles. On est sur un récit d'univers parallèle où en fait toute la trame scénaristique a pour but de nous présenter en fait plein de Spider-Man différents, puisque Spider-Man c'est un des personnages qui a le plus d'itérations différentes et plus d'univers différents dans les comics. Et du coup le premier nous a brillamment présenté cet univers Spider-Man, quoi, le Spider-Verse.
Ouais,
le multivers Spider-Man avec plein de Spider-Man différents. Spider-Ham, le Spider-Cochon, le Spider-Man, il y en a plein, hein. J'arrive même pas à les citer.
Je me demande, tiens d'ailleurs, l'histoire de l'œuf ou la poule, est-ce que le Spider-Cochon il est venu suite à ce mythique film des Simpsons où Homer fait Spider-Cochon.
Ouais.
Est-ce que ça vient de là ou est-ce que c'était déjà quelque chose qui existait ? Parce que moi, en tout cas, je l'ai compris comme ça, en tout cas. Après, peut-être que j'ai la mauvaise ref, mais dites-nous.
Moi, je pense que ça vient de là aussi. Je pense pas qu'il y ait un one-shot sur ce personnage-là.
Pour moi, c'est
par contre, il y a eu des one-shots sur les autres personnages du premier film, le Spider-Man détective. Dans le premier, c'est le détective qu'on a, en noir et blanc.
Mais c'est issu des collections noires de Spider-Man.
Exactement.
On a eu d'autres héros, hein, qui ont bénéficié de cette série noire entre guillemets, parce que en fait ce qu'il faut savoir aux États-Unis, en fait ils appellent le noir, c'est ce qui est l'équivalent du polar chez nous.
C'est le film noir, le film noir.
Mais ce qui est rigolo, c'est quand on entend parler les Américains ou des fois certains acteurs qui parlent de leurs références, ils disent ils parlent noir, le noir movie, quoi. Tu vois, ils disent le mot français en fait.
En mode polar, presque une marque. Film,
ouais, c'est ça.
Avec les enquêtes, etc.
Et d'ailleurs, si vous avez l'occasion de le jouer un jour, le lire un jour, au moins le premier, parce qu'après c'est celui qui a le mieux marché. Ils ont sorti des suites. Enfin, en tout cas, en France, on a eu les suites. On a eu un tome 2 et un tome 3. Lisez juste le premier de Spider-Man noir, c'est vraiment super. Enfin, c'est un super comics qui change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir, en tout cas.
Ouais. Je l'ai pas lu, mais donc bon, je me perds, je divague beaucoup. Mais donc ce deuxième volet, Spider-Man Across the Spider-Verse, donc prend la suite directe du premier film, présente un peu plus le personnage secondaire du premier film qui était Spider-Gwen, donc Gwen Stacy version Spider-Man. Et en fait là on va vraiment avoir l'histoire de Gwen, beaucoup l'histoire de Gwen et l'histoire de Miles. Vraiment, et c'est vraiment très intéressant. On va voir un peu l'univers dans lequel vit Gwen, puisqu'en fait chaque personnage a son propre univers, et l'intrigue va vraiment mettre en place des choses hyper intéressantes pour donner beaucoup d'intérêt à ce multivers, parce que là maintenant on est un peu gavé par beaucoup
overdose, tu veux dire,
ouais, hein. On est en overdose de multivers là. Marvel, c'est leur credo, c'est le multivers avec machin justement, il y a Spider-Man, mais il y a le, il y a aussi DC qui part avec leur Flashpoint sur des univers alternatifs, etc. Donc on est très gavé dans dans le monde du cinéma et même du contenu de manière générale sur les crossovers et les multivers. Mais là pour le coup ici, c'est fait de manière très 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 brillante, puisqu'en fait on connaît la qualité des gens qui ont fait le premier film. Ils ont une qualité artistique qui est vraiment notable, quoi.
Ouais,
vraiment,
ils ont leurs pattes, ouais.
Ouais, ils ont leurs pattes. Et en fait, je trouve que pour moi, ils ont redéfini le genre de l'animation, en vrai, du film d'animation.
Tu sais d'ailleurs quel film, quel autre film, j'étais surpris, je me dis putain, ouais,
oui,
on sent l'inspi.
Je sais. Et en vrai, on pourrait en parler aussi, hein, mais Puss in Boots 2, c'est ça ?
Ouais.
Le Chapeauté 2.
Ouais. Incroyable. Ouais. Les scènes d'action, c'était Spider-Man. Hein.
Bah oui, c'est très très inspiré de. Bah,
et c'est beau.
De enfin, la
c'est...
manière. Ouais.
Ouais.
Non, c'est vraiment très très beau. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je veux pas spoiler pour les gens qui l'ont pas vu, mais je vous invite à y aller au ciné parce que ça vaut vraiment le coup. C'est un super film.
J'ai une question pour étayer un peu le truc. Est-ce que ça confirme en développant un peu plus ce personnage de Spider-Man que c'est un super personnage ? Parce que moi, je trouve que dans le premier, bon, il y a Miles Morales qui est cool, mais son personnage-là, il est chouette, quoi. Je trouve qu'il a un côté très rafraîchissant.
Ah, non, là,
elle apporte
vraiment,
une vibe vraiment cool dans dans l'épisode. Et limite, on est déçu qu'elle s'en aille à la fin, tu vois. Tu te dis, ah merde, putain, il pouvait pas trouver un moyen de la laisser dans l'univers, quoi.
On la voit partir à la fin, et dans le 2, on commence avec elle.
Et
en fait ça rajoute vraiment beaucoup de profondeur à son personnage. On comprend un peu en fait quels sont ses enjeux personnels de sa vie dans son univers, et c'est hyper 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 intéressant. Le personnage, il est vraiment très profond. Il y a toute une thématique en fait pour les gens qui aiment Spider-Man. Vraiment, allez le voir, je pense que vous l'avez déjà vu pour la plupart. Et moi, j'ai trouvé très brillant la manière dont c'est traité, dont les sujets sont traités. Le sujet de l'univers parallèle est traité de manière très intéressante. J'ai envie de dire quelque chose, mais j'ai peur que ça spoil un peu trop. Je pense pas. En gros, ils partent sur un principe qui est que bon, ben, il y a toujours une mort très marquante pour Spider-Man.
C'est pas un spoil pour l'instant. Ouais.
C'est pas un spoil. L'oncle Ben pour Peter Parker, on l'a vu dans les films, etc. D'ailleurs,
Gwen
il y a plein
Stacy dans l'univers entre guillemets, dans le Terre, ils ont défini que c'était le Terre principal, c'était la Terre 616, je crois, de mémoire.
Ouais,
je sais plus
quelle.
Enfin, bref,
oui,
je me
Gwen
trompe.
Stacy, enfin, l'oncle Ben, Gwen Stacy, on a toujours une mort qui est un peu marquante et qui va marquer le début de la vie de Spider-Man, en fait. Et en fait, ils prennent ce moment-là de vie pour chaque univers.
C'est ça qui décline les univers parallèles, en fait.
Okay. Plus ou moins, en tout cas, c'est ce qui permet de maintenir un univers en bonne et due forme. Et donc, si cet événement, qu'est-ce qui se passe si cet événement ne se produit pas dans un des univers dans lequel il y a Spider-Man ? Et c'est un peu ça la question qui est posée dans ce film.
D'accord.
Et, qui est un peu répondue, mais pas entièrement, puisqu'il y aura une suite.
Alors, ma question, c'est est-ce que du coup, sur moi je l'ai pas vu, hein, encore une fois, j'ai pas eu le temps d'aller au cinéma, donc ça sera en VOD. Pareil, sans spoiler pour les auditeurs et pour moi, surtout parce que sinon je te tue. la question, c'est est-ce que on n'a pas affaire à un épisode, tu sais, un peu bâtard, tu vois ce que je veux dire ?
Un peu entre deux,
parce que comme il y a un 3 derrière, on laisse trop de trucs en suspens pour dire ah.
Non.
C'est ce que j'ai un peu entendu, hein, comme argument un peu contre cet épisode-là.
Honnêtement, entre le premier et le deuxième, certes ça se suit direct, mais je pense que quelqu'un peut aller voir le 2 sans avoir vu le 1, et il ira voir le 1 par la suite. Ça pose pas de problème en termes de c'est un peu dommage, évidemment, parce que
tu peux
forcément
voir celui-là sans avoir vu le 1.
Ouais, je pense, parce qu'en fait il y a tout le début, il y a vraiment un bon 5 minutes d'explication sur qu'est-ce qui s'est passé avant, genre pourquoi on en est là, quoi.
Ok, il t'accompagne, quoi.
Ouais, il t'accompagne, parce que je pense qu'ils veulent pas larguer les gens. C'est sorti en 2018, entre temps il y a eu le Covid, le machin, les cinémas qui ferment et tout.
Ouais.
Donc je pense qu'il fallait aussi qu'ils rattrapent leur audience, quoi. C'est normal. Par contre, je pense que le 2 et le 3 seront des films vraiment très proches. En fait, ça va plus ressembler à un diptyque que le 1 et le 2. Tu vois ce que je veux dire ? Mais l'ensemble de l'œuvre, ça sera les 3 films. Puisque vraiment, on a le personnage de Miles qui a grandi dans le 2. Dans le premier, il est
Mais ils
n'ont
pas changé sa voix VF, d'ailleurs. C'est plus la même voix VF, hein, il me semble.
Non, c'est la même.
C'est la même ? On a l'impression qu'elle est beaucoup plus grave.
Mais il a peut-être, mais parce qu'il a mué, enfin, l'acteur qui fait le doublage, je sais pas s'il a mué, mais en tout cas dans le film il a grandi, il est un peu plus âgé, donc forcément ils lui ont fait peut-être une voix un peu plus adulte. Moi je l'ai vu en VO, je l'ai pas vu en français.
D'accord.
Donc, okay. Mais c'était très très bien en VO, c'était vraiment très cool, il y avait plein de refs. Donc voilà, je vous invite à aller voir ce film. C'est vraiment des chefs-d'œuvre d'animation. Je pense que ça peut renouer le. Il y a certaines personnes qui sont un peu anti-animées, qui voient ça un peu pour gosses, quoi. Donc,
ouais, voilà, c'est ça. Ça a un côté pour attirer un peu le public adulte d'aller voir des dessins animés. Ouais. Il y a le côté peut-être CGI un peu parce que c'est de l'animation entre guillemets pas naturelle à l'ancienne.
C'est donc un peu spécial, on va pas se mentir. Quand tu regardes la première fois.
Tu vois, au moment où on enregistre, il y a eu les avant-premières, mais on est dans le mois de Slam Dunk. Moi, j'ai très très hâte de voir Slam Dunk au cinéma. On en parlera. Je ne sais pas si on en parlera ici ou si on en parlera dans YPDLM. C'est plutôt du contenu manga, donc certainement qu'on fera un truc en one shot ou un truc comme ça. Enfin, il faut qu'on aille le voir en tout cas. Et ce que je regardais par contre en info, c'est que c'est un budget de 100 millions pour un box-office mondial de quasi 500 millions.
Ah oui, non, mais c'est une
réussite. C'est toujours en cours de diffusion. Hein.
C'est une vraie réussite. Hein. C'est vraiment. Il y a très peu de. En fait, je pense que c'est clairement l'adaptation de Spider-Man la mieux réussie du cinéma. Hein. Je parle autant des live-action que du reste. Honnêtement, je pense qu'en termes de traitement de Spider-Man, c'est le récit le mieux construit.
On fera peut-être un jour un tier list Spider-Man.
Carrément, parce que je pense que ça moi j'ai des takes qui vont pas plaire à tout le monde, hein, on va pas se mentir.
En vrai, moi j'aime beaucoup le. Moi, je suis de cette génération là. Moi j'aime beaucoup le premier Spider-Man, forcément.
Mais oui, évidemment, moi aussi.
De Sam Raimi, hein. Je sous-entends le Sam Raimi.
Ouais, bien sûr.
Le 2 est très cool, le 3 m'a énervé, mais j'ai bien aimé quand même, mais ça m'a énervé. Après, ouais. Parce que là, il faudrait se positionner dans le côté tier list.
On fera un épisode, on se le garde, on se le met de côté, on fera un épisode Spider-Man.
Voilà. Sachant qu'on avait plus ou moins teasé aussi un truc sur Rocky, hein, on te rappelle.
Oui,
je sais pas si
Rocky,
tu te souviens.
Faudra qu'on le fasse aussi, mec, ouais. Évidemment. Mais j'ai pas vu le dernier Creed, mais comme ça, on mettra le Creed aussi dedans. Bref, il y a plein de choses.
Il y a plein de choses. J'aurai l'occasion de revenir, mais c'est sûr qu'après, là, moi, je vais laisser ma place en récurrent à Chris, et puis on intégrera forcément Chris aussi sur les tier listes. Donc il y aura un peu de bagarre et de fight. Ça va être sympa.
Ça va être très cool. Mais ouais, on vous prévoit ça. On essaiera d'aborder le thème Spider-Man dans le cinéma et de donner notre avis sous forme de tier list, peut-être. Très subjectif.
C'est toujours subjectif.
Et sûrement polémique. mais c'est cool. Bah écoute, voilà, moi j'en ai parlé, je suis assez content. Alors c'est un peu, vous le savez, hein, vous connaissez, c'est la formule de la maison, c'est un peu brouillon, on y va à chaud, ou en tout cas au ressenti
surtout.
C'est
le format le moins préparé, on va dire, parce que là clairement, on est arrivé, on n'avait rien sous la main, on n'a pas de déroulé, on n'a rien du tout, donc c'est plus histoire de déblatérer, vous nous écoutez déblatérer sur des trucs, ça part un peu dans tous les sens, et pendant qu'on
est
dans tous les sens...
Et n'hésitez pas à réagir, hein, évidemment, si on dit des dingueries, ou si vous n'êtes pas content ou si vous êtes content de ce qu'on dit et que vous êtes dans notre team,
c'est ça.
N'hésitez pas à le mettre sur Spotify dans les petits commentaires. Maintenant, il y a la possibilité de mettre des commentaires sur Spotify ou sur les autres plateformes. On vous lira avec plaisir. Et puis, comme d'hab, hein, on vous dit merci déjà. Moi, j'adore dire merci aux gens qui nous écoutent.
Tu dis merci tout le temps, toi.
Bah oui, il faut, mec.
Tu sais, juste deux petites infos jeux vidéo, mais très très rapide. La première, il y a quelque chose qui peut justifier votre abonnement Netflix, puisque j'ai découvert alors je savais que c'était déjà existant, vous savez que par le biais de votre smartphone vous avez la possibilité d'installer des jeux en fait sur Netflix, et là ils ont mis à jour le catalogue, et j'ai installé deux applications. La première, j'ai installé alors je l'allume en direct, hein, pour pas dire de bêtises. Alors, je le gardais pour après celui-là, mais il y a Tomb Raider Reloaded, qui est en fait une sorte de roguelite. Je ne sais pas s'il y en a qui ont joué dans les auditeurs à Archero. C'est un petit personnage qui a un arc, et quand en fait il s'arrête, la gimmick du jeu, c'est quand il s'arrête de marcher, il tire et il se déplace pour éviter les projectiles. Ils ont fait le même délire avec Tomb Raider.
Cool.
Avec une possibilité d'évoluer les armes et compagnie, et en vrai, c'est archi cool. Donc ça peut jouer en tactile. Et ils ont mis aussi Mais je lui dirai quand même. Ils ont mis Tortue Ninja Revenge Shredder, Shredder Revenge. Et alors, je le déconseille très fortement de jouer au tactile. Mais moi, j'ai branché ma manette d'Xbox que j'ai connectée en Bluetooth sur le téléphone. Et puis, avec une espèce de petit clip, je l'ai mis. Et donc, du coup, j'ai mis ça. Et ben, en vrai, tu sais quoi? C'est ultra fluide. Et ça, bah oui, ça, oui. Ça fait clairement le taf. Alors, je
c'est
sais
cool
pas si qu'ils étaient
un peu leur catalogue c'est de ça. Jeux Netflix.
Je sais pas s'il y a la feature de pouvoir jouer à plusieurs, mais en tout cas, juste en mode local, ça okay. fait le taf. Il n'y a pas de ralentissement, le framerate, il n'est pas endommagé, et ça marche super bien. Donc en mode, tu sais, quand t'es dans ton pieu et que tu cherches à faire un petit truc sympa et que t'as pas envie de sortir forcément la Switch, bah en vrai, c'est cool, quoi.
On y pense pas, mais super. C'est vrai qu'il y a ce petit catalogue, là, sur Netflix. Ouais. Si en plus, il y a deux, trois moi, j'avais regardé, mais... c'était pas foufou hein. Moi j'ai fait les jeux trivia, tu sais, les jeux un peu genre oui. en mode Trivial Poursuite et tout, parce que moi
non,
j'aime
en vrai
ça.
Là les gens, s'il y a un seul jeu que vous devez faire, si vous l'avez pas fait, faites Tortue Ninja, c'est un ouais. putain de bon jeu quoi.
Et ouais, carrément, je suis en train de le faire moi sur Play là.
Ah bah tu vois, il faudra qu'on arrive à se trouver un moment pour le faire tous les deux, ça c'est cool. Ouais. Et l'autre point, c'est, je suis assez content parce que je t'ai mis un autre jeu qui est un jeu qui nous occupe un peu de temps aussi sur smartphone, c'est Marvel Snap.
Ouais,
où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es dans Marvel Snap?
Bah écoute, je suis niveau de collectionneur 1300 là, j'approche du 1300.
Ouais, t'as commencé après moi. Oui,
ouais, j'ai commencé bien après toi, mais ça fait un peu plus de mois je crois que je joue. À ouais. peu près, j'ai bien évolué en deux mois alors que j'avais lancé le jeu à la sortie, mais j'avais pas trouvé ça très très cool. Et puis finalement, j'y suis revenu et je prends pas mal de plaisir. Je continue à jouer. C'est le bon petit jeu. Moi, ce que j'appelle les jeux de chiottes, hein, mec. Hein, c'est les jeux où
ah bah oui.
T'es aux toilettes, 3 minutes, et puis voilà, ah ouais. tu te régales quoi.
Pour ceux qui ne connaissent pas Marvel Snap, c'est un jeu de cartes en fait, avec des systèmes de territoires, et il faut gagner les territoires, mais avec les personnages de Marvel. Donc c'est ouais. ultra
c'est
gratifiant.
Cool.
Ouais, moi j'ai commencé à la deuxième season pass, je sais plus que c'était le héros mis en avant sur le season pass, enfin bref, mais du coup j'ai pas lâché. Moi, toi, je suis un peu plus haut en niveau de collection parce que je suis 5689,
ouais,
donc
ouais, t'as
un
bossé,
peu plus
toi.
Haut. Ouais, et là je suis passé pour la première fois. Je suis passé 90.
Bien joué.
Et on se fait la guerre avec un copain, coucou Baptiste, si tu passes par là. On se fait la guerre parce que pendant tout le début du mois, là, j'étais devant lui en fait au niveau du ranking. Donc j'ai fait 80, 90. Et là, il vient de me passer devant, il vient de passer Infinité, cet enfoiré. Voilà.
Ah, bien joué. Bravo.
Donc il m'a envoyé la capture d'écran alors que j'ai largué tout le mois. J'ai eu moins de temps de jeu sur la fin de mois. Et là, il est passé Infinité pour la première fois.
C'est
et...
du boulot. Hein. C'est du boulot.
Ouais. Et moi, clairement, ça va être chaud de passer. Donc je pense que ce sera certainement le mois prochain parce que j'ai quand même trouvé 2-3 decks qui tournent plutôt bien. Donc bref, voilà. C'était le point Marvel Snap. Je voulais conclure
ouais,
par
point,
ça.
Le point gaming, voilà. une manière. Il sort de le poudrer. L'épisode sera un peu. On va parler
il y aura
on
un peu
de plein de choses. Il y aura un
ouais.
peu de tout, mais c'est le retour. Les autres épisodes seront peut-être un peu plus structurés. Et, voilà.
Ou pas. Ça va dépendre de Chris, en fait, surtout.
Ouais. ouais. Et puis ça dépendra du contenu aussi,
ouais.
De ce dont on veut parler. Bah écoute Seb, moi je te propose qu'on arrête là. On a une
et
bonne,
ben
on a entre 45 et 50 minutes d'épisode. On vous remercie de nous avoir écoutés.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
C'était cool.
N'hésitez pas à nous lâcher, comme vous savez, hein, les petites étoiles, les petits trucs, les petites notations, comme je vous ai dit tout à l'heure, à réagir et puis à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et puis on vous dit à très vite pour un prochain
ouais.
épisode de Waiting Room.
C'est ça. Et moi, je fais la passe décisive au poteau Chris. Et puis, je vous dis à très bientôt quand je passerai une
yes.
tête par là.
Allez, merci.
Ciao tout le monde.
Ciao.